Avant de commencer cet épisode, je voulais vous souhaiter une belle année 2023. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la saison 3 du Départ, un podcast sur le changement de vie qui paraît tous les derniers samedis du mois. Je suis Manon, votre hôte, et je vous emmène avec moi découvrir des parcours inspirants d'hommes et de femmes qui ont changé de vie. Que le changement soit professionnel ou personnel, les personnes que j'interview ont toutes des histoires hors du commun à raconter. Je vous laisse découvrir mon invité du jour, et n'oubliez pas, ce n'est pas le point de départ qui compte, mais bien le chemin que l'on décide de tracer devant soi. Aujourd'hui, je vous propose une conversation que j'ai eue avec Marie, qui est coach professionnelle. J'ai voulu cette conversation pour apporter la vision d'une pro sur la reconversion et aussi qu'elle apporte des conseils. Je suis très contente d'être tombée sur Marie parce que j'ai appris plein de choses sur le métier de coach. C'est d'ailleurs la première fois que je comprends vraiment à quoi ça peut servir et que j'en vois une vraie utilité. Dans cet épisode, Marie donne des conseils concrets et applicables de suite pour prendre en main son parcours pro. J'espère que ces mots résonneront en vous. Mais avant de vous laisser écouter cet épisode, je voulais vous prévenir. Marie avait son fils malade avec elle au moment de l'enregistrement. Donc on l'entend de temps en temps intervenir et on entend aussi son dessin animé en fond. Mais ce podcast, c'est la vraie vie. Et la vraie vie de Marie, c'est de gérer son rôle de maman et d'entrepreneur en même temps. J'espère que vous serez compréhensif et compréhensive et que ça ne vous gênera pas trop pour l'écoute. Je vous laisse alors avec Marie et moi et je vous retrouve après pour quelques informations supplémentaires. Bonjour Marie.
Bonjour Manon.
Tu vas bien ?
Très bien, merci. Et toi ?
Ça va bien, merci. Merci de venir sur le podcast pour cet épisode hors série, du coup, parce que le mois de janvier est toujours consacré à un épisode hors série. Est-ce que tu peux déjà te présenter, toi, comme tu le souhaites ? Pas de prisme particulier, vraiment comme tu es, comme tu le souhaites.
D'accord, bah merci déjà pour ton invitation, je suis ravie d'être là. Donc moi je suis Marie Périssou. Alors j'aime pas mettre des cases et encore moins quand je vais dire mon métier parce que c'est un métier qui est quelque peu galvaudé. mais bon, on va quand même le dire puisque c'est important de préciser aux gens. Je suis coach certifiée et aussi consultante, mentor, on dit un peu comme on veut, tout ce qui est pour la gestion de carrière et les lancements et le développement des business. Donc, ce que je fais, en fait, c'est, enfin, ma mission, comme on dit, c'est vraiment d'accompagner les femmes particulièrement à se dévoiler professionnellement, à vivre pleinement de leurs ambitions professionnelles. Donc, c'est pour ça que je parle et de carrière et de business, parce qu'en fonction de la typologie de personne, si c'est une salariée ou quelqu'un qui a son compte ou qui est en transition professionnelle, le mot carrière ou le mot business va plus ou moins lui parler. Mais dans la globalité, mon job, c'est vraiment voilà, d'accompagner les femmes à prendre leur place professionnelle, celle qu'elles ont envie de prendre et d'aller au bout de leurs ambitions.
Et ben c'est justement de ça dont on va parler, sinon, sinon ça ne sert à rien.
Bien.
Voilà. Je voulais pour cet épisode qu'on parle de carrière et de comment développer sa carrière, que ce soit en salarié ou en entrepreneuriat. Parce qu'en fait, moi, dans le podcast, on parle beaucoup de transition et donc de reconversion professionnelle. Mm-hmm. Et donc, j'ai plein de questions à te poser. Mais est-ce que déjà, tu peux recontextualiser un peu et me raconter comment t'es arrivée à en être aujourd'hui coach spécifiquement dans ce domaine?
Alors, effectivement, je ne l'ai pas dit parce que c'est une longue histoire, donc je vais essayer de le faire court. En fait, moi, j'ai un historique, on va dire, salariat. J'ai travaillé pendant plus de 10 ans dans l'univers de la mode et du luxe sur Paris. J'étais responsable commerciale et après directrice commerciale marketing au niveau international. Donc, j'avais vraiment un prisme de développement commercial, bien sûr, et communication, mais aussi d'accompagnement des équipes que je gérais soit en direct, soit par l'intermédiaire de franchisés. Et pour des raisons typiquement personnelles, mon mari a été muté en fait en 2017 en Alsace. Donc, on habite à Paris, hein, la mode c'est à Paris en France, très fortement à Paris on va dire. Et il a été muté en Alsace et donc là, s'est posé la question, qu'est-ce que je vais faire de ma vie en fait? Parce que justement, dans ma petite bulle là, de mode de luxe, le transposer en Alsace et à Mulhouse, qui plus est, ce n'est pas avec beaucoup d'opportunités. Pour des raisons perso, voilà, envie de fonder une famille, etc., on a pris le pari de déménager. La nature étant bien faite, je suis tombée enceinte en arrivant là-bas, en fait. Donc, j'ai vraiment pris le temps de ma grossesse, du coup, pour me poser des questions. Il faut savoir que j'avais... Il y avait déjà pas mal de personnes qui avaient un peu planté la graine du coaching dans mon expérience. Au sein de ma dernière entreprise, on me disait souvent « Mais toi, Marie, il faut que tu ailles dans le coaching, t'es toujours là à nous rebooster, à nous remotiver, à nous dire qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on lâche pas. » Donc, je pense qu'ils avaient un peu planté des graines. Et du coup, au début de ma grossesse, je me suis dit « je vais me poser un peu tout à plat et voir qu'est-ce qui m'animait vraiment dans mon job d'avant, finalement, maintenant que je l'ai plus. » Alors, ça a été un peu aussi un travail difficile, de faire le deuil d'une activité qui me plaisait particulièrement. J'ai recontacté certains de mes collègues, certaines personnes de mes équipes, j'ai recontacté mes managers aussi, pour leur demander un peu, avec le recul, comment eux me décrivaient, quels étaient mes atouts, qu'est-ce qui me différenciait un peu d'autres personnes que pouvait manager ou avec qui pouvait travailler. Et ce qui ressortait, c'était vraiment le côté booster, accompagnement des équipes, évolution professionnelle, se démarquer, monter des projets. Et en fait, du coup, tout ça avec, je pense, le petit côté inconscient qu'on m'avait déjà un peu mis dans la tête, je me suis dit, OK, en fait, le coaching, c'est vraiment ce qui me botte, quoi. En revanche, étant du coup en grossesse arrêtée, on va dire, j'ai beaucoup recherché d'informations sur le métier du coach. Et là, j'ai déchanté vraiment beaucoup. Alors moi, c'est vrai que vu que je baignais dans un environnement international, j'ai toujours été très attirée par ce qui se passe aux États-Unis. Donc, j'étais dans ma bulle. Le coaching aux États-Unis, c'était en plein boom. Tout le monde parlait de ça. C'était vraiment un accélérateur de carrière. Et pas que d'ailleurs, mais aussi de carrière. Et là, quand j'ai commencé à regarder ce qui se passait en France et l'image qu'avait le coaching en France, je me suis dit, oulala, je veux pas du tout être une gourou, je veux pas du tout être un dicteur de leçons, enfin, je voulais pas du tout être associée à ça. Mais le métier m'attirait quand même toujours. Donc, j'ai fait deux choses. Je me suis faite coacher par différents coachs, des coachs certifiés, des coachs pas certifiés, des coachs en développement personnel, des coachs spécialisés carrière. J'en ai vu cinq, j'en ai eu que trois. Mais quand même, pour voir un peu l'expérience de l'intérieur, tu vois, entre ce que tu projettes d'un métier, ce qui a l'impression de t'attirer dans un métier, et puis finalement, la réalité. Il s'avère que les coachings, je les ai adorés, et avec des particularités à chaque fois, mais vraiment, je me suis dit, c'est vraiment ça que je veux faire. Et du coup, je me suis dit, il faut que je me forme, parce que si je me forme pas, je vais peut-être partir dans ces dérives-là, c'est un risque, même si je me connais et que je suis assez droite, on ne sait pas. Et puis surtout, j'aurais cette image aussi de ancienne manager qui s'est lancée dans le coaching comme beaucoup. Et moi, je me suis dit, je veux avoir un bagage supplémentaire. Donc, je me suis formée. Il n'y a pas beaucoup de certifications qui sont reconnues par l'État en France pour ce métier. Il n'y en a qu'une. Donc, je l'ai passée. J'en ai passé d'autres, mais qui ne sont pas reconnues par l'État. Donc, c'est des beaux titres un peu pompeux, mais voilà. Et suite à ça, j'ai fait un peu le travail de se dire, OK, voilà ce que je faisais avant, voilà ce que j'ai aujourd'hui comme bagage supplémentaire. Qu'est-ce qui, moi, m'anime? Qu'est-ce qui ressort de ce que disent les autres? Finalement, c'est ce côté avancer, se développer, aller un peu toujours plus loin. Je suis une femme, j'ai réussi à avoir un poste à envergure et à haute responsabilité à moins de 30 ans. Finalement, j'ai aussi envie d'inculquer ça, tu vois, et d'inspirer à mon petit niveau des femmes à le faire. Et donc, long story short, comme on dit, je me suis spécialisée vraiment dans la carrière et l'évolution des femmes suite à toutes ces petites étapes.
Ça mériterait un épisode complet, juste sur ça.
J'ai essayé de couper, je sais que c'est un peu long, mais...
Non, mais c'est super intéressant. Et du coup, tu t'es formée avant de savoir vraiment la spécialisation que tu voulais prendre. Oui. Donc, les formations de coach, c'est global.
Je pense qu'aujourd'hui, il y en a peut-être de nouvelles, pour être honnête, parce que vu que c'est un métier qui... moi, du coup, je me suis formée en 2018, fin 2018, début 2019. À l'époque, il y avait beaucoup d'écoles qui le proposaient, mais c'était vraiment le titre coach professionnel et personnel, personnel, ça dépendait des écoles. Le titre qui est reconnu par l'État, c'est coach professionnel, tout simplement. Après, je pense qu'aujourd'hui, il existe des cursus où tu fais la base, le cursus commun, comme on dit, et ensuite, tu peux spécialiser en reconversion, en développement personnel, en carrière, etc. Moi, à mon époque, ça n'existait pas. Puis finalement, j'ai quand même plus de 10 ans derrière en corporate. Donc, j'estime que l'école de la vie aussi, parfois, elle peut être très intéressante, voire même plus importante que du cursus théorique.
C'est quoi du coup le métier de coach ? Qu'est-ce que, en quoi ça consiste ?
La définition officielle, la définition officieuse.
Non mais c'est,
je plaisante naturellement parce que justement, aujourd'hui, j'avais la discussion avec des collègues il y a pas très longtemps. Aujourd'hui, le mot coach veut tout dire et rien dire vraiment. C'est-à-dire que on connaît le coach sportif, qui est, on va dire, le métier de base qu'on connaît autour du coaching, le premier qui a vraiment percé dans la société. Ça m'arrive encore aujourd'hui de dire que je suis coach et qu'on me demande sur quel sport. Hein.
Ah, c'est pas du tout
le physique de l'emploi. Mais on a cette image du coach, si tu veux, l'entraîneur, celui qui va te dire quoi faire, celui qui va te pousser, qui va te motiver, etc. Après, on a l'aspect coach, la personne qui va te trouver des conseils. T'as un problème, elle va t'aider, elle va te trouver tes solutions. Tout ça, c'est des images, hein, des on-dit, des croyances, etc. La réalité, c'est que la définition, la vraie définition, si je peux dire vraie définition du coaching, c'est vraiment d'accompagner la personne à aller atteindre son objectif final. Ça peut être dans n'importe quel domaine, je dirais, hein, que ce soit un domaine personnel ou professionnel, c'est j'arrive, je suis bloquée ou alors je suis perdue et j'ai besoin d'aller chercher un peu plus loin, soit d'activer un changement, soit de trouver des réponses. Et le coach, son rôle, ça va être de l'interroger, de l'accompagner par un système de questionnement et de protocoles de coaching, mais qui sont souvent liés au questionnement et à la visualisation pour que la personne trouve ses propres réponses. Le coach, par définition, en tout cas dans la déontologie du coaching aujourd'hui, si tu fais appel à des coachs qui sont référencés par des fédérations de coaching, ce qui est mon cas, notre rôle, c'est d'être en position neutre. On n'est pas là pour dire à la personne quoi faire, parce que donner des conseils en fonction d'un contexte, d'une situation différente, finalement, ton conseil, il sera plus ou moins applicable. C'est-à-dire que, je m'explique, si moi je te dis, toi tu me dis, j'arrive pas à aller parler à ma boss, elle est hyper fermée, elle me parle mal. Et moi je te dis, fais ci, fais ça. Je connais pas ta boss, je connais pas ton entreprise, j'ai que ta version des faits. Je risque de projeter finalement ce que moi je perçois. Et ça ne va peut-être t'envoyer au casse-pipe. Peut-être que sur un malentendu, ça va marcher. Mais peut-être aussi que finalement, ça va envenimer les choses parce que tu m'auras pas tout dit ou t'auras omis un détail qui pour toi était insignifiant. Mais en fait, dans la situation, il n'était pas forcément insignifiant. Tu vois? Donc, le principe de base, le vrai, j'aime pas dire vrai parce qu'il n'y a pas de vrai, il n'y a pas de faux, mais la définition du coaching aujourd'hui, si on le fait de manière réglementée, c'est une personne qui va t'accompagner sur un processus de changement par le biais de questionnements pour que tu trouves tes propres réponses. Donc, aller chercher au fond de toi tes ressources, en fait. Et comme ça paraît un peu parfois moyen de dire oui. C'est-à-dire, si je fais appel à toi, c'est que j'ai besoin de toi. Mais en fait, c'est ça la magie du coaching. C'est que nous, notre rôle, c'est d'aller chercher et d'aller faire beaucoup, beaucoup d'écoute active. C'est-à-dire écouter ce que tu dis et en tirer des questions que toi-même, tu n'auras pas pensé ou le fait de l'entendre de quelqu'un d'autre, ça n'a pas le même effet sur toi. Après, je ne vais pas rentrer dans les neurosciences, etc. Mais c'est tout un processus qui fait que si, en fait, les réponses, tu les as. Parfois, il faut juste gratter un peu plus sur certaines questions que d'autres. Et puis, parfois, ça vient assez rapidement et c'est même assez surprenant.
Super intéressant, j'aime beaucoup. C'est vrai que moi, j'ai beaucoup l'image de ce qu'on peut voir. En plus, je trouve que sur les réseaux sociaux en ce moment, depuis quand d'ailleurs pour toi, est-ce que ça a explosé ce terme de coaching ?
J'ai envie de dire le Covid, mais en même temps, le Covid a bon dos. Hein, c'est à chaque fois, on ramène tout au Covid. Mais moi, je sais que quand je me suis formée, donc on parle de 2019, il y avait beaucoup d'écoles, comme je t'ai dit. J'avais pas l'impression qu'il y ait... Bon, il y avait des coachs, on va pas se mentir, il y en avait déjà pas mal, mais ça n'avait pas la renommée, l'ampleur que ça a aujourd'hui. Alors peut-être parce que maintenant je baigne dedans, donc j'ai l'impression d'être envahie aussi, hein. C'est peut-être une possibilité, mais comme tu le dis, les réseaux sociaux, pour ça, c'est dangereux même, parce que il y a des coachs pour tout. Des coachs capillaires, des coachs, alors coachs en nutrition à la rigueur, ça dépend comment tu le, voilà, qu'est-ce que t'en fais, mais encore une fois, si tu mets en perspective la vraie définition du mot coaching professionnel versus le capillaire, bon. Comment tu vas t'amener à prendre tes propres réponses, à moins qu'après tu dévies sur du conseil en image. Mais tu vois, à chaque fois, il y a cette frontière avec, c'est pour ça que je te disais en début, consulting, mentor, conseil, parce que en fonction des problématiques des personnes, parfois tu dois changer de casquette. En tout cas, moi, c'est ma perception et c'est mon approche du coaching. C'est-à-dire que je vais accompagner quelqu'un sur une problématique. À un moment donné, si je vois que ça coince ou que la personne a vraiment besoin d'être propulsée, tu vois, il est possible que je lui dise, écoute, je change de casquette. Là, c'est Marie, la consultante qui parle, ou alors c'est Marie, la mentor, ou alors je vais te donner un conseil qui n'engage que Marie, la personne. J'essaie vraiment de dissocier parce que pour moi, c'est important de respecter cette déontologie du coaching, justement parce qu'on voit de tout et n'importe quoi sur les réseaux et que moi, ça a tendance un petit peu à m'irriter. Je le dis gentiment.
Comment est-ce qu'on peut faire la part des choses quand, si moi, par exemple, je cherche un coach professionnel, comment est-ce que je peux faire la part des choses sur qui va être dans la déontologie et la certification et qui ne va pas l'être?
Alors, encore une fois, hein, il y a plusieurs écoles, entre guillemets, de la vie. Il y a plusieurs perceptions aussi. C'est-à-dire que moi, comme je te l'ai dit tout à l'heure, je me suis aussi faite accompagner par des coachs qui n'étaient pas certifiés. Et j'ai eu de très belles surprises. Donc, je suis pro-certification à partir du moment où la certification, elle a un vrai cadre derrière aussi. Parce que vu que le métier n'est pas encore réglementé, demain, moi, en tant que coach, en plus, je suis certifiée praticien senior, donc je peux coacher des coachs, je peux tout à fait dire, ah bah, je lance mon école de coaching. Donc, toi, okay, tu viens, je t'apprends le coaching, entre guillemets, et à la fin, je te donne un certificat que je vais faire sur un bout de table, entre guillemets, un certificat de coaching. Tu peux dire, okay, demain, je suis coach certifié.
Ok.
Qu'est-ce qui garantit que moi, en tant que coach, je t'ai transmis vraiment le métier? Je pense pas, parce que je suis pas experte dans la transmission, dans la formation, en tout cas de coaching, c'est pas ma formation de base. Je pourrais te donner des tips, je pourrais te donner, on va dire, des success stories, des choses comme ça, des protocoles, mais après te les faire vivre, je suis complètement droite avec moi, j'ai pas les compétences, tu vois. Donc la certification en tant que telle, encore une fois, voilà, c'est un petit peu galvaudé et ça va dépendre de plein de choses. En revanche, moi, il y a plusieurs choses que je conseille toujours. C'est d'une part, c'est de parler toujours à la personne avant, que ce soit une fille, une femme ou un homme d'ailleurs. Le coach ou la coach, toujours échanger et vraiment échanger avant. Parce que s'il n'y a pas de feeling, il n'y a pas de confiance. Et sans confiance, le coaching, il a pas de raison de fonctionner en fait. Parce que sinon, tu vas toujours être dans la rétention, tu vas pas tout dire. Et la coach, elle pourra pas te poser les questions qui seront vraiment transformatrices pour toi. Donc, échanger, pour moi, c'est le feeling, c'est la base, c'est tout. Puis ça va te donner aussi la personne va présenter son accompagnement, c'est-à-dire de quelle manière elle va t'accompagner, est-ce qu'elle va utiliser des protocoles précis, des modes de fonctionnement particuliers, ça va résonner ou non. Ensuite, il y a quand même une chose, si on veut vraiment être dans le côté droit du métier, l'appartenance du ou de la coach à une fédération ou à un syndicat de coaching, tout de suite, ça te met à un niveau supplémentaire. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, je fais partie de l'UMCC, qui est une des fédérations de coaching européennes. Il y en a d'autres, hein. Il y a l'ICF et la SF Coach, par exemple, en France, c'est les trois grandes fédérations qu'on connaît. Aujourd'hui, il y a des syndicats du coaching qui commencent à voir le jour pour justement réglementer le métier. Donc, il y a tout un processus. Ça peut être, et je dis ça peut, hein, c'est pas forcément, ça va vraiment être très personnel, mais ça peut être aussi une manière de sélectionner son coach en fonction de ce qu'on attend. Un coach qui va travailler que avec des particuliers versus un coach qui va travailler en entreprise, ça peut aussi être une notion de sélection, tu vois. Je pense que c'est très personnel, mais qu'il faut vraiment prendre le temps de discuter avec la personne, de se renseigner aussi sur ses anciens clients, avoir des témoignages, vérifier bien évidemment, mais tu vois, de se rendre compte de qu'est-ce qui ressort de son accompagnement justement. Est-ce que c'est sa bienveillance, est-ce que c'est son côté action. Moi, je sais qu'on dit souvent de moi que je suis très cash et que du coup, j'y vais, quoi. Mais c'est aussi pour ça qu'on vient chez moi, tu vois. Donc, et il y en a d'autres chez qui ça passerait pas du tout. Et c'est OK, il en faut pour tout le monde. Donc, voilà. J'ai pas envie de te dire il faut faire ci, il faut faire ça, parce que déjà, les il faut, c'est pas trop mon truc. Mais c'est surtout que c'est très personnel et que pour moi, et ça n'engage que moi, et c'est pas forcément ce que j'ai appris à l'école, justement. C'est vraiment l'échange que tu vas avoir avec. Avec le coach, parce que j'ai déjà été coachée et j'ai réussi à ne pas tout dévoiler et donc à faire semblant. Alors, c'est pas très beau, mais si t'as pas envie, si tu te sens pas en confiance, l'être humain est très fort à mettre des masques.
Hein. Ouais.
Et donc, du coup, le coaching n'a plus aucun intérêt, ni pour toi, ni pour le coach, quoi. Je sais pas si ça répond à ta question.
Oui, très bien. Donc, du coup, on va aller sur la partie plus évolution professionnelle, carrière, tout ça. Ça veut dire quoi pour toi? L'évolution professionnelle.
L'évolution professionnelle, ça va encore une fois aller avec la personnalisation, c'est-à-dire que pour moi comme pour toi, ça va pas forcément avoir la même chose. Pour moi, dans l'idée d'évolution, c'est le contraire de stagnation. En gros, quand on stagne, on s'ennuie très rapidement, on procrastine, on est dans une spirale infernale et ça s'appelle la routine. Pour moi. L'évolution, pour moi, c'est de bouger. Ça ne veut pas forcément dire gravir les échelons, ça ne veut pas forcément dire gagner plus, ça veut juste dire être toujours dans une dynamique positive. Donc, évoluer, ça peut être changer, ça peut être redécouvrir quelque chose, ça peut être plein de choses à partir du moment où ça te met en mouvement et surtout, ça t'apporte à quelque chose de différent chaque jour, en fait, qui va te nourrir. C'est cette sensation de kiffer son job, en fait, pour parler cru.
C'est quoi, du coup, les blocages que tu as pu percevoir à cette évolution, justement ?
En général, tu veux dire chez les personnes que je peux accompagner ?
Oui.
Alors, il y en a plusieurs qui reviennent. Je pense que le premier, c'est « j'ai pas confiance en moi ». J'ai pas assez confiance, je suis pas capable, j'ai pas les compétences. Ça, c'est vraiment la première croyance de la confiance en soi. Elle est massive, vraiment. La deuxième, je dirais, la peur du changement, la peur de pas réussir, mais la peur de réussir aussi, hein, donc la peur de l'échec, ouais. Souvent, mais quand on creuse parfois, il s'avère que c'est en fait la peur de réussir, à être prêt justement à avancer et aller un peu sous les feux des projecteurs, alors que c'est pas forcément ce dont on a envie. Ça, je vais dire, c'est la deuxième. Et la troisième, le fait justement d'être dans une routine et de pas réussir à en sortir. C'est-à-dire, comment je vais faire pour faire différemment? Par quoi faut que je commence? Comment je me mets un peu ce petit coup de pied aux fesses? Souvent, quand je suis en appel, ce que moi j'appelle l'appel stratégique, donc avant de commencer un accompagnement, et que je dis, mais qu'est-ce que t'attends de moi? On me répond, un coup de pied au cul. Grossièrement comme ça, et je l'ai eu, mais sans te mentir, une 9 fois sur 10, c'est ce qu'on me répond, parce que alors il y a tous les autres blocages bien sûr qui sont concrets, mais à un moment donné, quand on est honnête avec soi-même, si aujourd'hui je te prends en appel parce que j'ai besoin d'être boosté, c'est parce que j'arrive pas à le faire tout seul. Et quand j'arrive pas, c'est pas forcément qu'il y a des blocages psychologiques, c'est peut-être tout simplement que j'ai pas trouvé le temps, je me suis pas donné les moyens, j'ai pas eu envie de le faire toute seule, parce qu'en fait, quand je commence, après, le quotidien reprend sa place, et puis tu procrastines, et puis après, c'est une histoire sans fin, quoi. Donc ouais, je dirais ces trois-là, c'est ce qui ressort le plus. Après, ça va en fonction, encore une fois, des situations, ça peut évoluer, mais il y a quand même cette... l'aspect confiance en soi, si je le mets en perspective, il va aussi avec tout ce qui est assertivité, quand on est une femme, de se dire j'ai pas le pouvoir de, je vais pas faire face à, tu vois. Je suis en réunion, j'ai quelque chose à dire, mais je vais pas le dire parce que c'est forcément nul, parce que les autres, ils sont forcément meilleurs. Puis il y a trois mecs, donc de toute manière, je suis la petite femme. Il y a encore beaucoup, beaucoup d'images comme ça, même si il y a quand même plein de choses qui se passent aujourd'hui en France pour que ça évolue. Il y a quand même encore un souci... de posture de la femme versus l'homme, surtout quand on est sur des postes un peu plus élevés.
Ouais. Comment est-ce qu'on arrive à se détacher de ces déconventions sociales, patriarcales, tout ça qui sont mises en place depuis longtemps? Comment est-ce qu'on arrive à s'en détacher pour prendre sa juste place, pas pour écraser les hommes, quoi que ce soit, c'est pas du tout l'idée, mais juste pour prendre sa place qui est la même qu'un homme à côté, mais qu'on n'arrive pas à prendre?
Je pense qu'il n'y a pas de formule magique, sinon on la connaîtrait toute. En tout cas, on essaierait toutes de la mettre en place. Je reviens sur ce que tu dis, je suis tout à fait d'accord. L'idée, c'est pas d'être au-dessus, c'est d'être ensemble, en fait. C'est la mixité, en fait, qui fait la force. Moi, je le vois bien, même au quotidien, quand je peux échanger avec des pères et puis après, je vais échanger avec mon mari, par exemple, enfin, le côté masculin-féminin, c'est vraiment complémentaire et c'est très riche. Et c'est ça, je pense, qui est important pour les entreprises de demain. Je ferme la parenthèse. Comment s'en défaire? Je pense que c'est un travail déjà de mindset. C'est-à-dire, est-ce que j'ai envie de le faire? Et derrière, pourquoi j'ai envie de le faire? Est-ce que c'est une conviction? Est-ce que c'est un objectif professionnel? Et pourquoi? Pour plus loin quoi? Dans quel objectif? Dans quelle motivation? Qu'est-ce que j'ai envie d'en récupérer derrière? Parce que déjà, si ça, c'est pas clair, derrière, on pourra mettre plein d'actions en place. La probabilité que ça fonctionne, ou en tout cas qu'on arrive, qu'on se sente à sa place, elle est plus faible.
Ouais.
Et c'est un peu le processus de coaching, en fait, en te le disant, là, ça résonne, c'est de se dire, tout accompagnement commence par poser un objectif. Parce qu'on peut arriver en disant, je veux aller mieux. Ok, mais c'est quoi l'objectif? Tu veux aller mieux dans quel domaine? Pourquoi faire? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Et en fait, pour répondre à ta question, je trouve que c'est un peu le même cheminement, c'est-à-dire, est-ce que je le fais parce que c'est tendance? Je tire le trait volontairement.
Oui.
Ou est-ce que je le fais parce que derrière, moi, j'ai une ambition, parce que j'ai envie d'avoir une direction, parce que j'ai envie de gagner plus, parce que j'ai envie de pouvoir aussi véhiculer une certaine vision du monde de l'entrepreneuriat. Enfin, bon, après, ça peut être diverses explications, mais la première étape, c'est ça. Et ensuite, grâce à ça, c'est de pouvoir agir en fonction de cet objectif et de rester focus sur cet objectif. Parce que, justement, il y a tellement de choses qui se passent sur ce sujet que je pense qu'on peut avoir tendance aussi à regarder ce qui se passe, regarder ce qui se dit, regarder ce qui se fait. Ah, et moi aussi, j'ai envie de faire ça. Oui, mais est-ce que ça répond à ton objectif à toi? Parce qu'à partir du moment où c'est ton objectif, ça veut dire que c'est ta motivation et donc derrière, tu seras plus enclin à vraiment t'investir pour cet objectif. Et après, c'est dans l'action. La confiance passe par l'action. Et quand je dis action, c'est que tu vas pas de te réveiller demain et dire bah, « je vais faire la presse au Codir demain parce que je me sens prête bon, ». Tu peux, hein, mais je pense que si tu arrives et que tu n'as pas confiance en toi, il y a quand même différentes étapes à atteindre. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'y aller step by step. La méthode des petits pas, hein, comme on dit, si tu connais, hein, c'est un petit pas après un petit pas va faire une grande aventure. Et c'est bah, se donner un petit challenge bah, demain. Je sais que jusqu'à présent, je n'ai jamais pris la parole dans cette réunion mensuelle, par exemple. Et bah, le mois prochain, je me mets le challenge de pouvoir, je sais pas, dire une phrase ou donner un avis ou poser une question en fonction de où se situe le blocage. Tu vois, un petit challenge qui va faire que bah, ça va te montrer que tu es capable de le faire, de un, qu'il ne s'est rien passé de catastrophique, de deux, que peut-être même ça t'a donné des feedbacks positifs en fonction de comment ont réagi les autres. Et tout ça, ça te gonfle à bloc pour justement tester un petit peu plus la fois d'après. Et okay. Encore une fois, je suis persuadée que bah, si l'objectif il est clair, tu vas te donner les moyens d'essayer. Et une fois que tu auras essayé, que tu auras osé essayer, bah, tu vas te rendre compte que oh, c'était pas si compliqué que ça finalement. Je vais peut-être aller un peu plus loin.
Okay.
C'est ma vision des choses, bien sûr. Hein.
Oui, bah oui, bah, de toute façon, c'est sûr. Est-ce que tu as des conseil pour se fixer des objectifs? Alors attention, ma spécialité à moi, c'est de poser plein de questions en une.
Donc, je vais essayer de suivre.
Et est-ce qu'il y a un bon moment pour se poser des objectifs? Parce que là, on est en janvier et tout le monde dit qu'il faut se poser des objectifs pour l'année. Tout le monde dit d'ailleurs qu'il faut se poser des objectifs. Est-ce qu'il faut les poser en janvier ou pas? Est-ce que le bon moment, il est personnel? Il y a un timing dans l'année, etc. Voilà, tu as plein de questions.
Oui, mais je pense que... Alors, il y a deux choses. Pour moi, il y a deux choses. Il n'y a pas forcément de bon moment. Je pense que ça dépend, encore une fois, du cycle de la vie de la personne. En revanche, effectivement, le début de l'année, il est symbolique, en fait. C'est juste ça. C'est que souvent, pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de se poser des objectifs, il leur faut une échéance. C'est le cerveau humain qui fonctionne comme ça. Donc, janvier, septembre, tu vois, septembre, rentrée scolaire, janvier, début de l'année, ce sont généralement des périodes qui sont assez propices à se poser des objectifs parce que inconsciemment, on ouvre une nouvelle page. Mais ça ne veut pas dire que si tu ne l'as pas fait en janvier, tu ne peux pas le faire en février ou tu ne peux pas le faire en mars.
Ouais.
C'est comme tu n'es pas obligé de le faire le 1er du mois et si tu as envie de le faire le 15 du mois, voilà. Il n'y a pas de « il faut », mais c'est vrai qu'il y a des études qui prouvent que quand on se pose des objectifs, là j'ai une étude en tête de Harvard, qui prouve que les personnes qui se posent des objectifs ont 10 fois plus de chances de réussir. Quand je dis réussir, c'est atteindre leurs objectifs, hein, leurs objectifs. Réussir par rapport à ce qu'elles ont envie de faire, si tu veux. Si c'est un projet professionnel, c'est réussir le projet professionnel. Si c'est perso, bah, c'est perso. Tout en corrélation avec l'objectif. Mais 10 fois plus.
Donc, ouais.
Et ça, c'est des études scientifiques. C'est pas moi qui les ai inventées ou quoi que ce soit. Donc déjà, tu pars du postulat qu'il y a peut-être un intérêt à aller s'y pencher. Moi, ce que j'aime dire et ce que j'ai pu remarquer, que ce soit avec moi d'ailleurs en premier lieu, mais aussi avec les personnes que j'accompagne, c'est que de poser un objectif, ça t'engage déjà dans un premier temps parce que tu l'as posé. Donc, tu as une espèce de responsabilité envers toi de dire « Ah bah attends, si je l'ai posé, peut-être que je fasse quelque chose parce que si c'est pour que ça reste sur un coin de la table,
ouais. Voilà. »
La deuxième chose, c'est que si tu te tiens à le faire correctement et donc une fois que tu as l'objectif, qu'est-ce que je dois faire pour l'atteindre cet objectif? Si tu passes pas par cette petite étape de quelles sont les tâches en fait ou les sous-objectifs qui vont me permettre de l'atteindre, bon, là c'est sûr que la procrastination va revenir de plus belle. Si tu fais ton petit listing, ça va t'engager aussi et ça va te permettre de perdurer ta motivation parce que tu vas mettre tout plein de petites tâches, encore une fois la méthode des petits pas, ça va même aller jusqu'à, je sais pas moi, m'acheter un nouveau cahier pour marquer mes objectifs. J'exagère mais tu vois. Et en fait le fait de ticker, bah, ton cerveau il va dire oh, j'ai réussi, même si c'est un truc insignifiant, ton cerveau il va se dire ah mais j'ai fait quelque chose, donc du coup ah bah j'ai envie de faire autre chose.
Ok,
donc tu vois ce côté bah je suis dans la machine, en fait c'est lancé, je suis fière de moi parce que j'avance, je me vois avancer.
Ouais.
Pour que tout ça fonctionne, on parle souvent de la méthode des objectifs SMART, c'est-à-dire des objectifs qui soient spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporalisés. Parce que moi, j'aime bien le mesurable et le temporalisé, je trouve qu'il parle assez bien. C'est que mesurer pour justement te rendre compte de ton avancée et donc te motiver en permanence, et temporaliser, c'est un peu la carotte qui te fait avancer. Quoi.
Ouais.
Donc, si tu as envie de te poser des objectifs, commence par un objectif, déjà, juste pour voir de quelle manière tu le vis, quelles sont les sous-tâches, si tu arrives à le décomposer toute seule, etc. Et en mettant des timelines qui soient réalistes. Hein. Si c'est pour, par exemple, la perte de poids, qui est toujours un exemple qu'on prend souvent lorsqu'on parle d'objectifs, tu veux perdre 20 kilos en une semaine, bon, il faut peut-être... voilà. Ouais. Si tu veux que ça fonctionne et que ce soit justement booster, il faut être dans la réalité. Ça peut être challengeant, mais il faut quand même que ce soit réel, quoi.
Donc, pour toi, les objectifs, il faut les écrire pour qu'ils soient...
Alors, c'est pareil. Ça, pour moi, c'est très important de les écrire. Il y a des études, encore une fois, je n'ai pas les sources là, mais qui prouvent que quand tu écris, ton cerveau ancre beaucoup mieux.
Okay.
Et encore une fois, si tu écris à la mano, encore plus que si tu écris sur l'ordinateur.
Okay.
Parce que probablement le fait d'écrire, je ne suis pas experte en neurosciences, mais le fait d'écrire fait qu'en fait... Ton cerveau réalise ce qu'il se passe et chaque mot prend son importance plus que si tu tapes sur l'ordinateur. Donc, moi, j'encourage toujours d'écrire. Après, écrire, si c'est à l'ordinateur, c'est OK aussi. Mais le problème d'un objectif qui reste dans la tête, c'est qu'il reste dans la tête.
Mm.
Et que la charge mentale du quotidien, à un moment donné, il va être sur le côté parce que ça ne va plus être ta priorité.
Ouais.
Alors, ça ne veut pas dire que s'il est sur le papier disparaît, j'ai envie de te dire. Mais tu l'as ancré, tu l'as noté. Moi, j'aime bien... travailler avec un agenda, en fait. Tu as ton objectif à l'année, au mois, peu importe la cadence, comme on disait juste avant. Mais après, tu vas découper tes tâches et tes tâches, tu vas les mettre directement dans ton agenda. Ça devient ton agenda, en fait, c'est ta liste de tâches. Tu n'as pas de to-do list vacante. Tu peux la faire au début pour lister, en fait, tout ce que tu as à faire. Mais si après, ça devient des rendez-vous avec toi-même dans ton agenda, tu ne peux plus l'oublier. Hein.
Ouais.
Alors, ça demande un travail de préparation. C'est ce que je dis à chaque fois. Je me dis, mais c'est long à faire. Ouais, c'est vrai. Que si on veut faire les choses de cette manière-là, et encore une fois, c'est mes conseils à moi, ça ne veut pas dire que ce sont les meilleurs, c'est bien de prévoir un temps pour poser tout ça. Et pas juste écrire « j'ai envie de perdre 20 kilos ». C'est « ok, je veux perdre 20 kilos, pourquoi ?» Toujours ce fameux « pourquoi hein, ?» C'est quoi la motivation derrière, sinon la réalisation est compliquée. Et qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour ça ? Faut que je me couche plus tôt, faut que je boive plus d'eau, faut que j'aille courir minimum une fois par semaine, dans un premier temps, tu vois, lister tout ça. Et après, ok, donc il faut que je boive plus d'eau. Bah déjà, tous les matins, à 8h, à midi et à 14h, je vais mettre qu'il faut que je boive de l'eau. C'est vraiment stupide, ça paraît stupide et limite enfantin. Mais en fait, tout ça, ça va te permettre de commencer à ancrer l'habitude de poser des objectifs et de faire des tâches. Peut-être dans 2 mois ou dans 1 an, tu n'auras plus besoin d'écrire de boire de l'eau parce que ce sera devenu ta routine. Tu vois, donc c'est en fait préparer ton cerveau et préparer ton corps à changer d'habitude. Et c'est valable pour la perte de poids comme pour demander une augmentation de salaire ou lancer un business plan.
Ouais, ok. Et quand tu dis pour se poser des objectifs, il faut savoir pourquoi on les fait. Par exemple, si on reprend l'histoire de la perte de poids, pourquoi je veux perdre du poids ? Ça peut être parce que je veux être en meilleure santé. Mais pourquoi je veux être en meilleure santé, ça peut être parce que je veux pouvoir sortir sans être essoufflée. Pourquoi ? Et en fait, on peut se poser 15 000 pourquoi. Quand est-ce qu'on s'arrête ?
Quand ça a du sens pour toi. Suffisamment de sens pour que ça te motive. Parce que tu peux... Il y a des exercices. Il y a un exercice qui s'appelle les 7 pourquoi, justement.
Okay.
De pouvoir descendre jusqu'à la raison de base. Parfois c'est plus. L'idée c'est justement que ça te parle à toi, mais que à toi. Le pourquoi, il est personnel. Il n'a pas besoin d'être divulgué, plébiscité ou quoi que ce soit. Donc il faut être honnête avec soi aussi. C'est-à-dire que je veux perdre 20 kilos parce que je veux être en meilleure santé. Est-ce que c'est vraiment ça? Ou est-ce que j'ai juste envie d'être plus jolie ou qu'on me regarde plus? Tu vois, ça peut être des choses qui sont mal perçues, par exemple, par la société, mais qui toi t'importent. Et à partir du moment où tu vas mettre le doigt sur la vraie raison du pourquoi tu veux faire ça, je t'assure que tu vas le sentir et tu vas t'arrêter.
Okay.
Parce que moi, j'ai une cliente, je prends cet exemple, où en fait, quand on a commencé, au début, elle est restée en super... c'était pour justement demander une augmentation de salaire. Et au début, on tournait autour du « parce que c'est ma valeur, parce que j'ai travaillé beaucoup, parce que non. » Et en fait, c'est juste qu'elle avait besoin d'argent, tout simplement. « Parce que j'ai besoin de plus d'argent pour mieux vivre et pouvoir sortir sans compter.
Ouais. »
Mais de le sortir comme ça... en fait, on est bridé beaucoup dans cette société, il faut dire la vérité, donc ça ne se dit pas, si on fait dans les on dit. Et puis, il faut être aussi capable de l'assumer. Et en le disant, en fait, ça devient réel, tu vois, et me le dire à moi. Alors, on est dans une relation de confiance, mais en le disant, ça devient, c'est plus ma petite voix dans ma tête, je viens de le dire, là, j'ai juste envie d'avoir de la thune. Et c'est OK, en vrai, tu vois, mais ça peut paraître... ça peut être mal perçu, et donc c'était difficile pour elle de le dire. Mmh. Une fois qu'elle l'a dit, il n'y a plus besoin de poser d'autres questions. Elle l'a senti, tu vois. Après, c'est ton corps qui parle aussi. Il y a une vraie connexion, de toute manière, esprit et corps. Donc, tu arrives à... Tu vois, c'est pareil pour les 20 kilos, ça peut être parce que j'ai pas envie de me retrouver avec un infarctus comme mon père que j'ai perdu l'année dernière. C'est horrible de le dire comme ça, mais c'est peut-être ça en fait la motivation. Et elle est suffisante à partir du moment où c'est ta motivation. Et c'est pour ça que l'honnêteté envers soi-même est quand même hyper importante.
Ouais, très difficile par contre, je pense.
C'est pour ça que c'est parfois plus opportun d'avoir un coach, parce que ça te permet d'avoir quelqu'un qui est neutre et qui te pose les questions.
Oui, c'est ça, ouais.
Eh oui.
Mais d'où la relation de confiance avec le coach, parce qu'effectivement, on ne va pas dire à n'importe qui ces choses-là.
Mais ça se construit aussi, une relation, une confiance, ça se construit. J'ai aucune prétention de dire qu'après une séance, la personne, elle a envie de tout me livrer. Hein.
Ouais.
Ce serait mentir. Quand je disais tout à l'heure avoir un feeling et avoir une confiance, c'est vraiment le mot feeling, c'est-à-dire que tu sens, peut-être à tort, mais on a quand même une intuition en nous qui fait que si tu parles avec... Enfin, je sais pas, quand nous, on a échangé, par exemple, on se connaissait pas du tout, j'ai senti tout de suite le feeling alors qu'on s'est échangé des messages écrits, tu vois. J'ai déjà d'autres personnes qui m'ont contacté de la même manière et juste la tournure de phrase, enfin, c'est bête, mais la tournure de phrase ou les mots utilisés, bah, ça fait pas partie de mon vocabulaire ou de ma manière de voir les choses. On n'est pas allé plus loin et probablement vice-versa, d'ailleurs. Hein. Donc, est-ce qu'il y a le feeling pour que, justement, on soit toutes les deux conscientes que... progressivement, on va créer une relation de confiance. Et ça peut prendre quelques séances, hein, mais c'est pour ça que moi, je fais des accompagnements sur certains mois. Je ne fais pas des séances à l'unité parce que je sais par expérience qu'une heure avec quelqu'un que tu ne connais pas, que tu n'as jamais vu, tu ne vas pas tout dire. Déjà par manque de temps, mais aussi parce que justement, tu n'as pas cette relation.
Ouais. Est-ce qu'il y a du secret du coup, tu m'as dit que c'était pas réglementé le métier de coach, donc j'imagine que je connais un peu la réponse, mais j'ai envie de la poser quand même ma question. Est-ce qu'il y a du secret comme il y a avec les psychologues, les médecins, etc. Dans le métier de coach?
Encore une fois, ça dépend du statut entre guillemets du coach. Moi, vu que je fais partie de l'EMCC, la Fédération de Coaching Européen, j'ai signé une déontologie.
Okay.
Et dans cette déontologie, il y a la confidentialité coach.
Ok.
C'est pas une obligation.
Ouais.
Puisque le métier n'est pas réglementé, comme tu l'as dit. Maintenant, je connais aussi des coachs qui ne sont pas certifiés et qui ne sont pas, en tout cas, qui n'ont pas la certification RNCP, celle qui est reconnue par l'État. Et qu'ils le font quand même, c'est-à-dire qu'ils ont eux-mêmes une déontologie qu'ils ont écrite parfois eux-mêmes aussi, et qu'ils présentent à leur coaché en disant, bah, de toute manière, tout ce qui se passe là reste entre nous parce que il y a le principe de confidentialité. Mais tu peux aussi avoir des personnes qui ne le mentionnent pas et potentiellement, du coup, voilà. Mais pour moi, c'est très important parce que t'es un être, ta vie pro. Enfin, moi, je coach sur la vie pro, mais tu peux pas la dissocier complètement de ta vie perso. Ne serait-ce que quand t'es maman et que t'es entrepreneur, si ton enfant il est malade, tu te vois bien dans l'obligation. Je ne parle pas du tout d'une histoire vécue. Non, mais si ton enfant il est malade, tu vas être amené potentiellement à en parler avec ton coach, te dire j'ai pas du tout fait ce que je devais faire, je suis dégoûtée, je suis démotivée, j'ai plus envie de bosser parce qu'en fait j'ai perdu, je mets des guillemets, 3 jours à être avec mon enfant parce qu'il avait besoin de moi, c'est un choix. Et du coup, j'ai perdu 3 jours de création de X, Y, Z. Donc, tu ne vas pas arriver au coach et dire « non, j'ai rien fait. Pourquoi ? Je ne peux pas te parler, c'est de ma vie perso. » Non, en fait, c'est ma vie, tout simplement ma vie. Donc, il faut aussi se sentir à l'aise d'évoquer certaines choses. Moi, il m'est arrivé sur des coachings pro de passer une ou deux séances sur des problématiques perso parce que c'était tellement lourd pour la personne que j'ai senti que si on ne mettait pas le doigt dessus, enfin, si on n'éclaircissait pas la chose, elle n'avancerait pas sur les autres sujets, tu vois. Après, c'est encore une fois, on était en confiance, je lui ai demandé si elle voulait qu'on en parle et qu'on essaye de l'éclaircir. Elle a dit oui, elle aurait très bien pu me dire non et on aurait avancé différemment. Mais c'est dans cette idée de confiance, encore une fois, pour moi, tu es un être humain à part entière, peu importe ton domaine de vie, la personne à qui tu te confies, il faut qu'elle ait une vision à 360, sinon elle ne peut pas t'accompagner correctement.
Je voulais revenir sur les objectifs parce que c'est vrai qu'en tant qu'entrepreneur, on le voit partout, il faut se poser des objectifs, machin. Et en tant que salarié, parce qu'il y a un mois encore, j'étais salarié. moi, en tout cas, j'avais le bilan annuel, l'entretien annuel, tous les ans, début d'année, avec mon manager, on posait des objectifs, mais on posait des objectifs ensemble sur moi, ce que je devais accomplir dans mon travail. Est-ce que on peut se poser des objectifs autres que ça? Et comment est-ce qu'on fait pour se poser des objectifs? Est-ce qu'on en parle forcément à sa hiérarchie ou pas quand on est salarié?
Je pense que c'est très personnel, encore une fois, parce que moi, si je prends mon exemple, je demandais à mes équipes qu'elles se posent leurs objectifs avant d'arriver à l'entretien. Alors, on faisait aussi des mi-annuels, nous,
okay,
pour justement avoir une progression et un point à mi-parcours, entre guillemets, de l'année. Mais je leur demandais qu'elles préparent leurs objectifs, parce que même s'ils n'étaient pas smart, mais juste pour avoir, tu vois, un peu leur intention et leur envie, leur souhait d'évolution ou de diversification, si je peux le dire comme ça. C'était important pour moi. Tous les managers ne le font pas. Et tous les salariés ne le font pas non plus. J'en ai qui ne le faisaient pas parce que ça ne les intéressait pas. Et c'est OK. Après, encore une fois, je trouve que c'est très pertinent. Il y a différents types d'objectifs aussi. C'est-à-dire que tu peux très bien... Moi, je sais que moi, avec moi-même, je me posais des objectifs sans en parler à ma hiérarchie parce que c'était des objectifs que j'appelais motivants. C'est-à-dire qui me motivaient à moi, tu vois.
Okay.
J'ai envie qu'à partir de telle année, finalement, j'ouvre un nouveau pays. J'ai n'importe quoi. Ou alors, à l'inverse, j'ai envie de plus manager. J'ai plus envie de manager. J'ai envie de... que mes équipes deviennent managers à leur tour et que du coup, j'ai deux strates, tu vois, enfin, des objectifs qui ne sont pas forcément quantifiables du coup pour en parler à une direction parce que c'est très personnel, mais de les avoir en tête et de savoir que c'était ça qui me motivait. Derrière, quand je devais poser mes objectifs avec ma responsable, c'était dans ma tête et donc les objectifs que j'allais poser, je faisais en sorte qu'indirectement, ils répondent à mon objectif à moi.
Okay.
Je ne sais pas si ça a du sens, ouais. Tu vois ce que je veux dire. Si par exemple, mon objectif, c'était de développer l'italien, la langue italienne que je parle, je ne vais pas forcément lui en parler comme ça, brut de décoffrage, parce que ça sort un peu du chapeau. Mais par contre, d'avoir, moi, travaillé cet objectif et qu'est-ce que je pouvais mettre en place pour l'atteindre, bah, quand je suis arrivée, c'est pas là, c'est une histoire fausse, mais quand j'arrive devant mon manager, bah, je vais dire, bah, est-ce que potentiellement, je peux aller faire ce qu'on appelle du shadow, c'est-à-dire suivre la responsable commerciale Italie, parce que j'ai vu qu'elle avait mis ça en place et du coup, ça m'inspire et j'aimerais bien voir comment elle l'a mis. J'ai toujours pas parlé de mon objectif à moi qui était de parler l'italien.
Ouais.
Mais je sais que moi, indirectement, je vais connaître un peu plus le marché italien. Potentiellement, elle est italienne, donc je vais demander à parler en italien avec elle. Et du coup, la fois d'après, ou même pas forcément l'entretien annuel, hein, et ben j'aurai un peu plus de matière pour être légitime dans ma demande de peut-être avoir des cours d'italien.
Ok. Ouais, ouais, un peu c'est clair.
C'est vraiment de se dire, ok, qu'est-ce que je veux moi? Est-ce que ça a du sens d'en parler maintenant? Qu'est-ce que ça va m'apporter d'en parler? Ou est-ce qu'au contraire, est-ce que ça n'a pas du sens de maturer un peu, tu vois, mûrir un peu, et ensuite, après, en faire quelque chose de bien, en parler à la direction. Ça n'engage que moi, mais en tout cas, dans ma petite carrière corporate, ça a été plutôt assez efficace.
Ouais, mais en tout cas, c'est très clair. J'espère que ça aidera des gens
J'espère aussi.
À se poser des objectifs. Et je voulais quand même qu'on parle reconversion professionnelle,
oui,
parce que c'est le but de ce podcast à la base. Est-ce que tu as des conseils, peut-être par où commencer, savoir quelles questions se poser en premier ou quelles questions se poser pour savoir dans quoi se reconvertir, etc. Des conseils comme ça quand on sait qu'on n'est pas à sa place dans son travail. Mais voilà, maintenant, qu'est-ce que je fais?
C'est compliqué. Hein. C'est une question qui est très compliquée et c'est un sujet qui n'a jamais été d'autant d'actualité, je pense, la reconversion professionnelle. Moi, je conseillerais, si on n'a pas envie justement de faire un bilan de compétences, qui est quand même un des programmes qui est fait à la base pour la reconversion professionnelle, ou de faire du coaching, etc. Déjà, renseignez-vous, il y a plein de bouquins qui existent. Sur l'Ikigai, par exemple, des petits bouquins qui coûtent 5 euros, 7 euros et qui peuvent être un bon... si on a envie d'aller chercher un peu plus loin, ça peut être un bon support, je trouve. En revanche, si on n'a pas envie de faire tout ça et qu'on a juste envie de se poser soi-même avec soi-même, ce que j'invite les personnes à faire, c'est déjà de faire un point sur leur vie aujourd'hui, professionnelle. Donc, OK, il n'y a plus de sens. Pourquoi il n'y a plus de sens? Qu'est-ce qui n'a plus de sens? Est-ce que c'est les missions? Est-ce que c'est l'environnement? Est-ce que c'est le produit ou le service, en fonction dans quel domaine on est? En fait, faire un peu un état des lieux, finalement, de la situation à aujourd'hui. Qu'est-ce que j'aimais que j'aime plus, par exemple? Qu'est-ce que je faisais que je fais plus et qui me manque? Vraiment, c'est pareil, hein, ce que moi j'appelle de l'introspection qui prend un peu de temps. Et surtout quand on est tout seul face à soi-même, ça peut prendre encore plus de temps. C'est pour ça que j'ai commencé par dire les possibilités d'accompagnement. État des lieux, aujourd'hui je suis là, je me sens plus bien, ça je le sens, Je sais pas pourquoi, mais je le sens. Ok. Quand j'ai commencé, c'était quoi qui m'attirait? C'était quoi que j'aimais? Aujourd'hui, est-ce que je le fais encore? Oui, non. Est-ce que si je le fais encore, ça me procure encore de la motivation? Oui, non. Ok, qu'est-ce que je fais plus et qui me manque? Qu'est-ce que je devais faire, qu'on m'avait dit que j'allais faire et que je ne fais pas? Est-ce que ça me motive toujours? Tu vois, vraiment un petit état des lieux à 360 degrés de mon job à aujourd'hui. Et ensuite, dans un second temps, de sortir, juste d'essayer, parce que c'est pas toujours facile, de sortir de son quotidien et de son univers, parce qu'en fonction aussi de si ça fait 10 ans que t'es dans la même boîte ou un an, c'est pas les mêmes questionnements et les mêmes la même envergure, quoi. Mais c'est de se dire aujourd'hui, qu'est-ce que j'aime? Et ça peut, il faut se laisser partir, hein. Enfin, moi, c'est ce que je fais quand je suis en bilan de compétences, mais il faut laisser partir les gens. Qu'est-ce que j'aime aujourd'hui? J'aime la nature, j'aime les bijoux. Ça peut être vraiment très, très large. Et ensuite, devenir crescendo. Ok, bah, j'aime les bijoux et j'aime la nature. Ok. Qu'est-ce que j'aime dans les bijoux? Qu'est-ce que j'aime dans la nature? Est-ce que c'est la création? Est-ce que c'est la liberté? Est-ce que c'est. Ça peut être plein de choses, en fait. Chaque personne va y mettre quelque chose derrière. Et en fait, en descendant comme ça, encore une fois, en se posant toujours les questions du pourquoi et de qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce que je pourrais en faire, et ben, on va descendre dans l'entonnoir et ça va nous donner peut-être des mots-clés, peut-être un domaine d'activité, peut-être des compétences. Et ensuite, on va essayer de les transposer dans le marché de l'emploi actuellement. Tu vois. Ça peut être aussi de se dire « Ok, moi, j'ai pas de passion. » Ça m'arrive souvent, ça, des personnes qui disent « Moi, j'aime rien. » C'est ok en fait, tu peux ne pas avoir de passion. Mais après, il y a tout un processus de questions que tu peux te poser ou dire ok, bah, t'as pas de passion, mais qu'est-ce que t'aimes faire quand t'as du temps libre? Je sais pas, j'aime regarder Netflix, je fais rien, j'aime bouquiner. Bah oui, mais c'est déjà des choses, c'est pas rien, ce sont des choses. Mais qu'est-ce qui te plaît là-dedans? Tu vois, à chaque fois, essayer d'enlever les couches du ok, qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qui me plaît derrière? Qu'est-ce qui me plaît derrière? Une question que j'aime bien poser, c'est si demain t'étais milliardaire ou millionnaire, enfin peu importe, t'avais plus besoin de te soucier de l'argent, parce que souvent l'argent peut bloquer un peu ce côté je m'évade et j'ouvre le champ des possibles. Si vraiment demain t'avais de l'argent, qu'est-ce que tu continuerais de faire que tu fais aujourd'hui au quotidien? C'est pas forcément professionnel, hein.
Oui.
Mais j'ai une cliente qui m'a dit le ménage. Et en fait c'était très drôle parce qu'elle l'a dit au début, elle a pas trop osé le dire, tu vois, parce qu'encore une fois l'image du métier du ménage en France, blablabla, mais elle l'a dit. Et je l'ai vu son visage s'illuminer, mais c'était incroyable, quoi. Et elle me dit, ouais, mais c'est pas vraiment une passion. Je dis, je vous ai pas parlé de passion.
Ouais.
Et en fait, de ça, je suis revenue en arrière parce que forcément, tout l'état des lieux, on l'avait fait. Et il y avait plein de choses qui l'amenaient déjà à ça. Mais elle avait comme un espèce de voile devant la figure parce que je pense qu'elle voulait pas s'avouer que c'était ça.
Ouais.
Et là, en fait, de le dire en se disant, mais c'est vrai que même si demain, j'avais la moyen de me payer 15 femmes de ménage, hein, ben, je le ferais toujours.
Ouais.
Ok, bah, y a peut-être un truc avec ça. Ça ne veut pas dire femme de ménage forcément. En l'occurrence, elle, c'était vendre des produits ménagers qui soient bio, etc. Parce qu'il y avait toute une partie justement environnementale, sauver la planète, etc. Donc, tu vois, après, on a fait des liens.
Ok.
Et c'est vraiment un chantier. Moi, je sais qu'il y a des personnes que j'ai eu en appel découverte que je n'ai pas accompagnées, mais juste en appel découverte, je leur ai dit, ok, bah, prenez des papiers là, vous prenez une grande table et vous mettez ces questions, vous les posez, et après, vous allez faire des liens. Mais revenez-y. Laissez mûrir, faites autre chose, revenez. Parce que vous êtes tout seul face à vous-même, vous n'allez pas les faire tout de suite les ponts. Et parfois, peut-être jamais, parce que vous avez justement ces œillères devant la figure. Mais ce sont des débuts de questionnement qui peuvent ouvrir un peu justement ces fameuses œillères et de se projeter, oser se projeter, même si ça ne viendra peut-être pas réalité demain, mais se permettre de finalement envisager autre chose.
Une question un peu philosophique, mais est-ce que toutes les passions sont bonnes à devenir des métiers?
Bonne question, effectivement.
Parce que moi, j'adore faire des puzzles. Je vais pas être payée à faire des puzzles toute la journée.
Tu ne sais pas. Tu ne sais pas ce que tu peux
mais
en faire.
Mais d'ailleurs, je pense que faire des puzzles toute la journée, tous les jours de toute l'année, ça me saoulerait.
Ouais, voilà. Donc, c'est une très bonne question. Il y a eu effectivement pas mal de débats là-dessus. Il y en a souvent à ce sujet. De se dire, est-ce qu'il faut vivre de sa passion?
Ouais.
Bah déjà, est-ce qu'on a tous une passion? C'est la première question. Moi, je suis persuadée que non. Et ensuite, quand on en a une, bah encore une fois, ça dépend ce que ça signifie pour soi et qu'est-ce que ça nous amène. J'ai une autre cliente qui était passionnée de tennis, mais passionnée de tennis. Hein. Elle a fait un bilan de compétences pas avec moi, il y a quelques années, avant qu'on se rencontre. Et dans son bilan de compétences, il en est ressorti qu'il fallait qu'elle soit coach sportif en tennis. Mais elle n'avait pas du tout envie de faire ça. C'était une passion, il fallait que ça reste une passion.
Ouais.
Et elle voulait que ça reste une passion. Par contre, ce qu'elle aimait là-dedans, c'était le dépassement de soi, le collectif, le développement personnel. Et donc, si tu l'analyses avec un peu de recul et pas juste stricto sensu, bah, peut-être qu'en fait, c'était un poste de management qui l'intéressait. C'est ce qu'il en est aujourd'hui, c'est-à-dire qu'elle est manager et elle s'éclate.
Ok.
Mais il faut prendre du recul, tu vois, par rapport à la passion stricto sensu. Toi, bon, je ne vais pas te faire un coaching maintenant, mais on pourrait. Qu'est-ce qui t'intéresse dans le puzzle? Qu'est-ce qui fait que c'est une passion, comme tu dis? Est-ce que c'est parce que ça te déconnecte l'esprit? Est-ce que c'est parce que tu es très minutieuse? Est-ce que c'est parce que tu aimes que tout soit carré? Enfin, tu vois, il peut y avoir plein de choses derrière. Et de ça, quelle est la réalité du marché derrière aussi? C'est-à-dire ouais. que, ok, bah, je fais tout ça, mais je vais pas faire des puzzles toute la journée parce que ça me saoulait, comme tu dis. Par contre, peut-être que je pourrais dessiner des puzzles parce que j'ai un esprit hyper créatif et que je peux en lancer un demain sur la reconversion. Tu sais, il peut y avoir plein d'idées. Hein. Il y a une étude de Pôle emploi qui dit que 85% des métiers de 2028 n'existent pas aujourd'hui.
Ouais.
2028, on est en 2023.
Ouais.
C'est, et tu le vois d'ailleurs, hein, tous les nouveaux métiers, surtout dans le digital, parce que ça se développe très vite. Mais quand nous, on s'est lancé, enfin je dis nous, parce que je pense qu'on a à peu près le même âge, mais je suis peut-être un peu plus vieux, ça n'existait pas, les métiers du digital, le community management, influenceur, ouais. Tous ces trucs-là. Donc, ouais. on ne sait pas ce qui va arriver d'ici là. Peut-être qu'il va y avoir des nouveaux métiers autour du puzzle. Mais est-ce que ça te fera vibrer? Ben ça dépend de ce que toi, tu mets derrière cette activité, en fait, derrière cette passion. Parce qu'il y a des passions qui doivent, je dis vraiment doivent, rester à côté parce que soit ça paye pas, et que c'est quand même une réalité qu'à un moment donné, on a aussi besoin, on travaille aussi pour avoir de l'argent, ouais. soit il n'y a pas d'opportunité, le marché est complètement saturé, donc c'est un risque aussi de se lancer dedans, ou soit tout simplement parce que la personne, elle adore d'autres choses, c'est pas des passions, mais elle s'éclate aussi dans d'autres choses, et que du coup, bah, c'est une belle balance aussi d'avoir une passion perso et puis une passion pro.
Ouais.
Je pense qu'il n'y a pas de... Tu vas me détester à la fin de ce podcast, mais je pense qu'il n'y a pas de réponse toute faite pour tout parce qu'il y a plein de choses qui vont dépendre de l'individu.
Ouais.
Mais par contre, il y a des, on va dire, des choses à faire qui parleront à tout le monde, peu importe ce qu'on a envie de mettre derrière, mais ce genre de questionnement, de se dire, ok, mais qu'est-ce que j'aime vraiment là derrière? Qu'est-ce que ça me procure? Qu'est-ce que je ressens? Toutes ces petites questions-là, de prendre le temps de se les poser, généralement, ça fait toujours... avancer parce qu'on ne prend jamais le temps de se les poser ce genre de questions.
Ouais.
Dans la vie de tous les jours, on n'a pas le temps.
Ouais.
À tort, mais c'est la réalité.
Ouais. Est-ce qu'on doit forcément se reconvertir ou est-ce que parfois juste un changement de poste, ça peut suffire?
Réponse B. Mais c'est là, mais pour répondre un peu plus de manière détaillée, c'est là où c'est important de faire ce travail d'introspection. Peu importe si on le fait seul ou accompagné d'un bouquin ou d'une personne, c'est que parfois, on a l'impression qu'on doit se reconvertir, comme tu dis. Il faut se reconvertir parce que j'ai plus de sens, je me fais chier, je suis mal payée, enfin tout le truc habituel. Mais ça se trouve, si on analyse la chose, ça m'est arrivé avec une cliente. Ah mais moi je veux plus du tout faire ça, c'est pas du tout ce qui m'intéresse, j'en ai marre. Ok, bah, moi je prends ce qu'elle me donne, sauf qu'au fur et à mesure des séances, bah, ça revient toujours au même job. Et en fait, elle était tellement mal dans sa boîte et dans le secteur, c'est-à-dire qu'elle était dans la mode, mais elle était dans le digital. Et en fait, elle était commerciale dans le digital, dans la mode. Plus on tournait autour de trucs, plus le commercial, par définition, l'éclatait. Mais elle supportait pas le digital et elle supportait pas sa boîte.
Ouais.
Et elle s'était mis dans la tête qu'il fallait qu'elle se reconvertisse. En fait, effectivement, potentiellement, changer d'entreprise et changer de secteur en restant sur le même métier allait lui apporter quelque chose d'autre. Bah, aujourd'hui, on ne peut pas te faire de feedback parce qu'elle a commencé sa nouvelle boîte il y a 2 semaines. Donc, c'est plutôt récent. Mais elle a fait cette démarche et effectivement, elle a pris beaucoup plus de plaisir aussi à regarder les offres d'emploi parce qu'elle est sortie du « il faut que ce soit dans le digital et dans la mode parce que c'est ce que j'ai sur mon CV
ouais. ».
Bah non, en fait, j'ai des compétences commerciales qu'on a travaillé ensemble. C'est plus facile, encore une fois, quand tu as un point de vue extérieur. Quoi. Tout ça, je peux le transposer. En l'occurrence, elle va travailler dans une école, tu vois. Donc, rien à voir. Mais ces compétences, elles sont transverses. Elles sont transposables dans un autre univers. Et là, ça l'a fait... Alors, à voir comment ça se passe, je lui souhaite tout le bonheur du monde, mais en tout cas, elle ne s'est pas du tout reconvertie. Elle avait l'air enjouée de pouvoir continuer ce qu'elle aimait, mais dans un autre secteur.
Ouais.
Mais l'introspection, tu ne peux pas le... Il n'y a pas de baguette magique, encore une fois. Tu ne peux pas dire, il faut que je me reconvertisse, ou il faut que je démissionne, ou il faut que je... Il faut, on ne pense à rien, en fait. Qu'est-ce qui te dit que... Si tu as du factuel, alors vas-y. Hein. Mais généralement, c'est juste qu'on n'est pas bien. Et que quand on n'est pas bien, c'est plus facile de faire erase et de partir ailleurs que de se demander le pourquoi du comment et de comment je peux m'en servir pour faire autre chose.
Ouais. Est-ce que tu as, toi, une philosophie de vie, pour toi perso, là on parle de toi maintenant, une citation, j'aime bien les citations un peu, voilà, quelque chose comme ça qui définit ta façon à toi de voir la vie.
Alors, je peux t'en donner deux ?
Oui.
Parce que il y en a une qui m'a vraiment drivée, tu vas rigoler je pense, mais qui m'a vraiment drivée pendant toute ma période justement quand j'étais dans le salariat, c'était work hard, play hard.
Ouais.
Et ce que je mettais derrière, et que je mets toujours, donc je l'utilise encore aujourd'hui, c'est je suis persuadée qu'on n'a pas rien sans rien dans la vie et qu'il faut se donner les moyens de sa réussite, de sa propre réussite comme on l'a définie. Et que donc, ça demande parfois, même très souvent, de travailler. Et travailler beaucoup, travailler dur, encore une fois, ça veut... C'est très personnel, on met, peut-être que c'est en nombre d'heures, peut-être que c'est en intensité, peu importe, mais c'est, il faut travailler. Mais donc du coup, derrière, il faut aussi avoir de la gratitude envers soi-même et donc de pouvoir s'amuser pour contrebalancer tout cet investissement et cet engagement qu'on a mis dans le travail. C'est vraiment la balance, je travaille beaucoup, mais je m'amuse aussi. Et tout ça pour mon objectif qui est le mien et qui m'est propre et qui, entre guillemets, regarde personne.
Ouais.
Mais tu vois, la balance, pour moi, ça a toujours drivé beaucoup mon salariat, un peu moins aujourd'hui, parce que quand tu es entrepreneur, tu es sur d'autres injonctions déjà, et puis d'autres modes de fonctionnement. Mais elle est toujours là, et je la dis souvent à mes clientes. Il y en a une autre que j'aime beaucoup, qui est « better done than perfect », donc « mieux vaut fait que parfait », ancienne perfectionniste que je suis. J'ai appris, justement, grâce à l'entrepreneuriat, à lâcher prise sur certaines choses, au profit d'autres, parce que je pouvais passer des heures et des heures sur des détails insignifiants, finalement. Mais sauf que quand tu es à ton compte, les détails insignifiants, c'est de l'heure, et de l'heure, c'est du salaire que tu n'as pas. Donc, du coup, j'ai appris à faire ça, et parfois, je fais des choses, et puis je me vautre. Mais c'est OK, parce que je sais pourquoi je l'ai fait, je voulais tester, et que j'ai pas de regrets, donc je l'ai fait. Ça, c'est assez bien. Et puis, il y en a une que moi, j'ai inventée, mais qui est le nom de mon entreprise, hein, et j'aime beaucoup le dire, c'est « Let's rise and shine ». L'idée, c'est de donne-toi les moyens de te lever pour briller professionnellement, en fait. Donc, c'est pas vraiment un mantra ou quoi que ce soit, mais j'aime bien le dire aussi. Si t'as envie d'aller plus loin, tu peux le faire, en fait.
Trop bien. Merci beaucoup.
Merci à toi.
Salut.
Bye.
Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. J'espère qu'il vous a plu et que vous avez pu en tirer des conseils pour votre vie pro. Si vous avez encore quelques secondes, j'ai des petites choses importantes à vous dire. Déjà, vous pouvez retrouver Marie sur son compte Instagram @riseandshinecoaching et sur son site internet www.riseandshinecoaching.com. N'hésitez pas à faire appel à elle si vous avez la moindre question sur le coaching ou si vous souhaitez vous faire accompagner pour passer un cap dans votre vie professionnelle. Quant à moi, on se retrouve sur Instagram @itinéraire.dunepassionnée, sur le site du podcast www.podcast-auledépart.com, sur LinkedIn, sur la page du départ. Et si vous voulez me raconter votre histoire pour passer dans le podcast, vous pouvez m'écrire par mail à manon@podcast-auledépart.com. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode et une nouvelle saison. Et en attendant, prenez soin de vous !